9h17 minutes. Nos invités ce matin, Sophie Préjean et Charles Lafortune, sont ici pour nous parler de cette série qui est percutante, présentée sur Moi et compagnie. C'est le mercredi à 19h30. Il y a des rappels le vendredi, le dimanche, mardi. En fait, il y a plusieurs diffusions possibles. Et ça porte évidemment sur le passage d'un enfant autiste vers le monde des adultes et ce que ça entraîne comme changement pour lui et pour ses parents. Sophie, Charles, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté.
Bonjour, Paul. Plaisir, bonjour, Paul.
D'abord, l'idée de participer à une émission comme celle-là, une série comme celle-là, est-ce que c'est facile à prendre ou s'il faut en discuter beaucoup entre nous?
C'est facile à prendre de mon côté parce que c'est moi le producteur de la série.
Exactement,
donc je l'ai dit, je me suis regardé dans le miroir, mais j'ai dû convaincre
Suggestion qui
Sophie.
Vient de monsieur d'ailleurs.
Oui, mais là, il faut
pas
convaincre.
Nécessairement de moi.
Ouais. Non.
Effectivement. On avait un pacte, Charles et moi, toute notre vie. On s'est dit, nous autres, les caméras ne rentreront pas chez nous. Je ne suis pas intéressée à montrer ni mon salon, ni mes plantes vertes. Puis là, tout à coup, la vie change. Je vieillis. Mon fils aussi. J'ai eu le sentiment à un moment donné qu'il y avait une deuxième vague de problématiques qui entrait en ligne de compte, c'est-à-dire la majorité quand t'es pas autonome. Puis là, Charles a proposé de faire un documentaire. J'ai fait, hey, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Non. OK, on va le faire. On va le faire une fois. Parce qu'on l'a jamais fait. Parce que je suis pas sur Facebook, je montre pas de photos de la personne, de mon fils. Je n'ai pas exploité ce côté-là. Fait que j'ai fait, il y a peut-être quelque chose à faire là, une fois, une vraie fois. Puis c'est tout. Alors, on a dit oui, puis ça n'a pas été facile pareil.
Qu'est-ce que tu dis, ça n'a pas été facile pareil?
Ben, j'avais pas le goût. J'avais pas le goût que ça... C'est très impudique, là, le documentaire. Je veux dire, on me voit dans mon quotidien. Je me disais, c'est-tu si intéressant que ça? J'ai-tu une vie si particulière que ça? Puis après ça... J'étais profondément convaincue que c'est pas ça qu'on regarderait. On regarderait pas mes plantes vertes, puis on regarderait pas mon décor de salon. On va regarder ces enfants-là vivre. Puis je veux changer les choses. Je veux que ça bouge. Fait que j'ai dit, OK, on va le faire.
C'était quoi la motivation comme producteur? On peut avoir une idée, mais une idée qui implique soi-même,
ouais.
Son fils, sa conjointe.
Mais je pense que comme producteur, quand on a quelque chose qu'on sent vraiment ou qu'on a envie de faire, tu sais, moi je dis toujours, si tu te réveilles à 3 heures du matin et tu as des idées pour ton projet, c'est le fun. Il y a des chances qu'il soit meilleur. Mais ça, ce projet-là, je dis toujours que c'est pas une cause que j'ai choisie, c'est une cause qui nous a choisi. Puis le fait que Mathis, notre fils, allait avoir 18 ans, il y a beaucoup de choses à faire quand on a 18 ans pour un enfant qui soit autiste. Et à tous les niveaux, hein, puis c'était ça aussi dans l'idée, c'était de suivre dans du spectre de l'autisme large pour montrer toutes sortes de différents autistes. Puis suite à l'année passée, quand il y a une compagnie, une multinationale qui avait décidé de fermer son programme d'emploi, qui s'est ravisé par la suite, et c'est tout à leur honneur, moi, ça m'a conforté dans l'idée de faire un documentaire. Puis honnêtement, en fait, au début, on a écrit 5 épisodes d'une fiction, en fait, qui s'appelait TSA. Et puis, au fur et à mesure, on se disait, finalement, c'est très difficile à faire en fiction. Peut-être qu'on serait mieux de faire un documentaire. Et dans notre fiction, on avait un autiste qui se sauvait. Et puis, finalement, ça, c'est devenu Alerte Amber. Fait que c'est comme la multiplication des pains. c'est mon automne autiste. Alors, dans Alerte Amber, il va y avoir un autiste qui se retrouve au milieu d'une Alerte Amber. Et puis, on s'est mis à faire le documentaire. Malgré que Sophie dit toujours qu'elle avait cette réticence-là, rapidement, on a oublié les caméras vite. Puis je te dirais, Paul, que au printemps, au mois d'avril, qui est le mois de l'autisme, on a sorti une bande-annonce pour annoncer qu'on faisait ça. Et puis en une semaine, 3 jours, je pense qu'on était rendu à 1 million de vues. Et moi, j'ai dû appeler la productrice, parce qu'en fait, c'est la compagnie dont je suis un des co-actionnaires, puis c'est comme qui produit. Mais donc, j'ai une productrice qui est là-dessus. Moi, je suis comme le boss de la productrice. Et je l'ai appelé pour dire, là, faudrait peut-être arrêter tout. Puis il faut se rasseoir puis voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce qu'on sentait qu'il y avait une résonance. Et cette résonance-là, on la vit depuis mercredi passé.
Mais parce que quand on voit des enfants, là, je parle des jeunes enfants qui ont des problèmes du trouble du spectre de l'autisme, on se dit, bon, OK, il y a des services qui peuvent exister, l'école, il y a des...
Ouais. Bon, qui vont surtout l'école, en fait.
L'école, puis le monde scolaire. La réalité que vous montrez, c'est quand tu arrives à l'âge adulte, un, il arrive quoi? Deux, quand vous allez vieillir, il va se passer quoi avec votre fils? C'est ça, les J'imagine exactement. Les questions que tu disais tantôt.
Ah, des fois, j'ai l'impression de pas avoir le droit de vieillir, tu sais. Puis, ben, c'est pas vrai, là. Je le sais. Physiquement, je le sens, puis tout ça. Puis, mon fils mesure 6 pieds 4, 250 livres. Une chance qu'il est pas violent. Mais ça veut pas dire qu'il sera jamais. Puis, moi, ben, je vais me fragiliser. La vie va me fragiliser de plus en plus. Comment on va faire pour cohabiter, tu sais? C'était ça, en fait, le questionnement. Et pourquoi investit-on tant sur des enfants quand ils sont en bas âge pour après ça les laisser tomber? Il y a une différence entre la désinstitutionnalisation puis laisser carrément tomber parents et enfants. Moi, je considère que ces enfants-là, ils ont encore le droit d'évoluer, même si c'est pas à l'université, même si c'est pas en technique ou au cégep. Ils ont le droit d'être, de ne pas se bercer dans des CHSLD avec des parents, nos parents, mes propres parents, tu sais. Fait que comment faire pour trouver des structures pour ces enfants-là, pour poursuivre leur développement? Parce qu'à 18, 19, 22, 24, 27, 32, un grand garçon ou une grande fille peut continuer à progresser, à évoluer quand tu es autiste, ou peu importe, hein? On parle des autistes, là, mais il y a d'autres formes d'enfants aussi, là.
Puis pour que les gens comprennent bien, en fait, c'est que quand tu sors du système scolaire, tu te retrouves à l'intersection du système scolaire, des services sociaux, de la santé et aussi du ministère de l'économie, parce que tu vas avoir le droit à de la solidarité sociale. Mais puisque le gouvernement, et Dieu sait qu'on le sait, puis même eux l'admettent, les ministères travaillent souvent en silo, mais quand tu te retrouves à l'intersection de tout ça, ben ça devient très, 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 très complexe. Il y a nombre de familles qui vont nous raconter toutes sortes d'histoire, hein, où les gens doivent faire 3 centres de jour parce qu'ils ont juste de la place pour une journée dans un, ils ont réussi à se retrouver. Puis, comprenez-moi bien, les gens qui sont à l'intérieur du système, ils font tout ce qu'ils peuvent, hein. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider, améliorer. Puis ils sont vraiment là au CLSC quand on y va. Les travailleurs sociaux, c'est la même chose. Mais moi, avec toutes les années, j'ai compris qu'il y avait autant de soupers spaghetti que d'autistes. Tu sais, t'as autisme Montérégie, autisme Rive-Nord, Laval, Québec, Trois-Rivières, etc. Et donc, il n'y a pas un plan vraiment à savoir ce que la main gauche puis la main droite fait. Nous, on a reçu, hein, pour les élections, mon fils, bien qu'il est répertorié comme étant handicapé lourd, ben, il a reçu son petit papier pour son droit de vote parce qu'il va avoir 18 ans. Donc, tu te dis là, le curateur, par exemple, il va y avoir une réforme de la curatelle qui va se faire présentement, elle va se faire à l'automne. Ben, il n'a pas été prévu dans la réforme qu'un enfant qui est inapte, ben, qu'on devra décider, la loi est ainsi faite que ça devrait être Sophie ou moi qui sera, elle, curatrice ou moi, curateur, un conseil de famille. Et c'est un ou deux qui va décider et signer pour le reste du temps. Ça n'existe pas, une curatelle parentale.
Je reviens à un point important, oui. L'hébergement, parce que c'est pas normal, peu importe la nature du handicap. Moi, j'ai vu des accidentés de la route se ramasser dans des résidences de personnes âgées avec des gens qui étaient de 80 et plus, avec des problèmes de gens de 80 et plus, tu te dis, mais ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens qu'un jeune de 30 ans, de 28 ans se ramasse là. Allez-vous, comment dirais-je, profiter de la campagne électorale ou en tout cas faire passer ce documentaire-là à un autre niveau, c'est-à-dire celui de, appelons ça, d'une certaine pression exercée en disant...
Oui, politique.
Politique, oui.
C'est déjà dedans.
OK.
C'est déjà dans le 10e épisode. Oui, c'est déjà adressé à M. le ministre. Oui, tout à fait. C'est ça le but, là. Le but, c'est de faire bouger les choses. J'ose espérer qu'il va y arriver quelque chose de bien à la suite. Moi, je pense que collectivement, on est prêt. Hein? Moi, je pense que les 2,3 millions de vues qu'on a eues, les clics puis tout ça, là, ça correspond à un désir de comprendre. C'est pas juste de la curiosité, c'est pas possible, selon moi.
Qu'est-ce que vous dites à des parents, peu importe la lourdeur du handicap, qui ont un enfant qu'ils voient grandir, puis il y a peut-être aujourd'hui, ils vous écoutent, là, il y a 7-8 ans, puis ils se disent « Ouais, va ressembler à quoi dans 10 ans, puis dans 12 ans? » Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là?
Armez-vous de courage et de patience, battez-vous, ce ne sera pas facile jusqu'à la fin. Pas jusqu'à 18 ans, jusqu'à la fin. On considère à 18 ans, à la majorité, que tu es supposé d'être autonome. Qu'est-ce qui arrive quand tu ne l'es pas? Là, les troubles commencent, là. C'est là que ça commence. On m'a posé la question la semaine passée, qu'est-ce que tu vas faire quand ton fils va avoir entre 18 et 21 ans? Je suis restée un peu... Je savais pas quoi. Je vais faire comme les autres. Je vais me battre, je vais me fendre en quatre. Je vais essayer. Il a tout essayé pour y trouver des structures, des programmes pour poursuivre son évolution. Mais je ferai pas de la magie, là. Je vais aller crier. Je vais faire ce que je fais, là. Je vais montrer ce que c'est ma vie. Pour qu'on comprenne, enfin, comment on peut les aider puis comment on peut les soutenir. On comprend la valeur d'une société, on juge, on voit la valeur d'une société à sa façon dont elle traite ses minorités, quelles qu'elles soient. On est qui au Québec? On est rendu où? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir comme société? C'est ça, moi, ultimement, qui m'intéresse. C'est ça qui m'interpelle. Je suis convaincue qu'il y a bien du monde qui s'intéresse à ça aussi, présentement.
Dans la série, vous abordez le cas qui est évidemment le cas du vieillissement des parents, mm-hmm. puis éventuellement du départ, de la mort des parents. Comment vous voyez, une fois, en fait, le jour où vous serez plus là, mm-hmm. qu'est-ce qui va se passer avec lui?
Ben, nous, je pense que notre défi, ça va être en tant que parent, mais en tant que ça va être d'établir aussi une structure. Il y a différents. Il y a présentement des organismes qui ont des plans et auxquels plus tard on va annoncer qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Mais ça serait aussi de bâtir une structure où on a des centres de jour, un accès au travail. Et je pense que la Fondation Louis Vérou, ils font une super belle job sur la sensibilisation aux gens à l'hébergement. Mais comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça, puis trouver un modèle qui fait en sorte que, du vivant des parents, les parents puissent continuer à travailler, qu'il y ait un accompagnement post-scolaire, qu'il y ait une réalisation dans le travail. Ça ne veut pas dire d'avoir un job, ça veut dire de réussir sa vie d'autiste. Fait que d'avoir ça, puis d'avoir de l'hébergement. Moi, je dis toujours, tu sais, on parle toujours des pays scandinaves. Ce serait le fun que les pays scandinaves viennent voir ce que nous autres on fait, puis que ça soit nous le modèle au lieu que ça soit là-bas. Donc, nous, on va travailler. Je pense que notre cheval de bataille dans les prochaines années, ça va être ça. Ça va être le post-scolaire, la poursuite de l'éducation, l'intégration au travail, puis de faire en sorte de rallier des gens autour de ça. C'est sûr que Sophie a dit toujours, moi, je ne suis pas une spécialiste en autisme, je suis une spécialiste en Matisse. Donc, ça fait 18 ans. Mais en même temps, il y a des répercussions. Il y a des choses qui s'appliquent. T'sais, nous, ben, c'est un grand garçon non-verbal. Dans le documentaire, ben, ça va de Raphaël qui, lui, habite en appartement puis qui coupe ses sandwichs.
Oui, il est autonome, il y a différents niveaux.
Mais tous ces gens-là ont les mêmes enjeux quand même. C'est pas parce que tu parles nécessairement que t'es complètement autonome. Ça se peut que ça soit très, très spécifique tes intérêts. Alors, comment on fait pour qu'ils puissent se réaliser? Fait que dans l'avenir, je pense que ça va être ça notre cheval de bataille.
C'est clair que c'est la chose la plus anxiogène. Là, le après-moi, qu'arrivera-t-il là, quand je pourrai plus, le temps que je vais pouvoir, là, puis je vais faire mon jogging le matin longtemps, là, je le sens, pour ça, pour être capable longtemps, mais oui. C'est extrêmement anxiogène.
Il y a un paradoxe qui commence à être corrigé à peine, où l'aide financière de l'État, tu parlais du rôle du gouvernement, était supérieure à des familles d'accueil qui acceptaient d'héberger des enfants qui n'étaient pas les leurs, alors que des parents qui restaient avec leur enfant à la maison avaient des montants d'argent moindres. C'est comme une aberration. C'était plus, entre guillemets, payant confier ton enfant à des étrangers que de t'en occuper toi-même.
Oui. Et il y a des organismes, Parents pour la vie, par exemple, qui donc ont fait beaucoup de revendications au gouvernement pour ça, parce que, c'est ça. À un moment donné, tu te dis, tu sais, Sophie et moi, on se cachera pas, là, on est les privilégiés de la société. Donc, notre enfant, on se dit, nous, on va le garder le plus longtemps qu'on peut à la maison, on va se donner ces moyens-là. Tu sais, dans la vie, je pense qu'on a toujours espéré le mieux, prévu le pire. Mais oui, ça, c'est une aberration. Tu sais, s'il y en a un des deux qui est obligé d'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant, puis ça crée un appauvrissement de la famille, ben puis ces gens-là, tu sais, bien basic économique, ces gens-là payent moins d'impôts, là. Il y a bien des trous à réparer au Québec, on va en réparer moins. Donc, c'est sûr qu'il faut...
Des répercussions
de dépression, etc. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on puisse les garder dans un milieu familial.
Fonctionnel,
puis qu'on puisse donner les sous qui vont aller avec ça.
Je vais vous poser deux ou trois questions, peut-être personnelles, très personnelles. Avez-vous déjà pensé à dire, plus capable, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans, puis on va le confier à une famille d'accueil ou à une institution, de placer?
Non, pas Mathis, pas personnellement.
Non, jamais.
Mais c'est arrivé, ça arrive des fois qu'on prend le relais de l'autre. Tu sais, des fois, moi, je suis collée au plafond, là, puis Charles, il prend le relais avec Mathis, puis je vais respirer un peu plus loin, puis des fois, c'est le contraire. On est comme toujours un peu en train de
Cette nuit, on a pris le relais de l'autre.
Ben oui, c'est du quotidien, là. C'est parce qu'il dormait pas, c'est moi qui... Je vais me coucher avec, je m'endors avec, il dort pas, puis là, ça a plus de sens, là, où je sais que j'étais pas l'arcan le lendemain matin.
Après ça,
je m'en vais à l'Union des artistes, ma journée est vraiment pas finie. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu qu'en allant à la toilette, j'ai vu sa petite tablette allumée, j'ai dit, ça te tenterait pas. C'est ça. Nous autres, on est trois, puis on fait vraiment c'est le relais.
Moi, je l'ai entendu se réveiller, fait que j'ai pris mon iPad, j'ai lu ma presse, le journal de Montréal. Mais ben, elle m'a dit, elle a dit, oui, Charles, j'ai dit, OK, c'est beau, tag team, on s'est tapé comme à lutte, puis après ça,
iPad, on a changé. Il y en a, puis je suis rempli de compassion pour ces parents-là, qu'on ne doit pas juger. À un moment donné, ça dépend de l'enfant aussi, puis ça dépend aussi de ta capacité, puis si t'es monoparental, je veux dire, c'est qui est où ta soupape, là, t'en as. Ouais. Je veux dire, c'est...
Un jour, j'ai fait une tribune téléphonique, puis il y a une auditrice qui m'avait secoué. Elle m'avait raconté un peu, bon, un cas lourd. Et son conjoint l'avait laissé en disant, et c'était le père de l'enfant, là, qu'il n'était pas capable, il n'avait pas l'énergie pour s'en occuper. Puis que, puis elle, en fait, lui aurait voulu placer l'enfant, puis elle ne voulait pas. Sur le couple, ça doit être dur, des fois.
C'est épouvantable. Il y a beaucoup de séparations. Ouais. Il y a déjà un monsieur qui m'a mis, on faisait une levée de fonds. Il est venu mettre 20 $ dans ma main directement. Il dit, j'ai pas gardé mon fils, ma femme le battait.
Ouais.
Il y a du monde que c'est pas, c'est difficile à accepter. Tant mieux, nous autres, High five, encore une fois, là, on est passé au travers. Dieu sait que ça n'a pas toujours été facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. C'est extrêmement.
Il y a cet exemple-là dans le documentaire. La petite Malika, qui, elle, sa mère a dû la placer. Puis, de l'extérieur, tu sais, elle te raconte que les gens l'encourageaient. La maman était encouragée à placer sa fille. Sa fille, elle a un trouble de comportement. Quand elle se désorganisait, la violence est contre les autres. Bien, elle a dû la placer. Mais elle te raconte qu'elle-même, elle est adoptée. Fait que elle a en elle-même
la culpabilité
d'avoir été abandonnée et elle-même de se dire, moi, je vais moi-même abandonner ma fille. Mais en même temps, tu le vois bien que c'est rempli d'amour. Tu vois bien que c'est la seule façon qu'elle a trouvée pour pouvoir aller travailler, pour y donner un monde meilleur. Fait que il y a un gros catch-22 là-dedans.
Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'être venus ce matin. C'est une série à voir, puis en espérant que... À l'autre bout de la vingt à Québec,
il se passe quelque chose.
Merci aux auditeurs parce que on a fait 355 000, ça a été le record de Moins Compagnie. Puis quand on fait un truc comme ça, on se dit, ça va-tu passer? Puis en tout cas, merci d'être là.
Parce que oui. Autiste bientôt majeur, donc présenté sur Moins Compagnie, mercredi 19h30, 9h34, la pause et on vient tout de suite après.